Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une expression que l'on va entendre et réentendre aujourd'hui dans notre émission Questions de femmes, c'est bien celle-là, avoir une alimentation équilibrée. Parce que même lorsque l'on parle de deux maladies chroniques comme l'obésité ou le diabète, et même quand on aborde la question du surpoids, eh bien l'important est de retrouver les bons repères, des conseils adaptés pour ne pas s'interdire ou encore moins s'affamer. Bien comprendre comment notre corps fonctionne, assimile, digère, pour trouver l'alimentation qui lui convient. Portions raisonnables, préparation si possible faite maison, une vision de l'alimentation santé qui doit aussi donner sa place au goût, comme aux produits locaux, variété, fraîcheur, bien manger, c'est aussi se faire du bien, ce qui signifie prévenir certaines maladies et lorsque certains troubles sont déjà diagnostiqués, en limiter l'impact. Comme d'habitude, des conseils sur des cas concrets qui correspondent à votre réalité, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. L'alimentation pour les personnes en surpoids ou atteintes de diabète, quels sont les aliments à éviter, quels sont les produits à privilégier? Et pour répondre et vous conseiller, on retrouve à Dakar où vous exercez Bintou Chersek, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes diététicienne nutritionniste et vous vous trouvez actuellement dans les studios de RFI en full des aimants d'un camp, dont on remercie toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
Alors, deux cas de figure, Bintou Chersek, la prévention d'un côté et de l'autre, l'adaptation lorsqu'un diagnostic est déjà posé, lorsque le problème de santé est déjà identifié. Une première question, est-ce que l'alimentation constitue un élément majeur lorsque l'on veut éviter le diabète au sens où, en mangeant mieux, on peut en quelque sorte éloigner le risque d'être un jour concerné par cette maladie chronique?
Absolument. L'alimentation, une alimentation équilibrée, c'est un prérequis pour prévenir le diabète et beaucoup d'autres maladies chroniques ou les maladies non transmissibles. Donc c'est une évidence. Une alimentation saine, une alimentation équilibrée, quel que soit le terme qu'on utilise, c'est absolument nécessaire.
Et là, on parle bien sûr du diabète de type 2.
On parle du diabète de type 2, qui est le diabète, si vous voulez, du mode de vie. C'est un diabète qui est provoqué par différents facteurs. Et souvent, ce sont les facteurs qui sont liés à notre façon de vivre, notre façon de nous alimenter, la sédentarité, le taux de lipides dans le sang, qui est lié à la qualité de l'alimentation. Donc, vraiment, un diabète qui est lié à notre hygiène de vie.
Autre situation, une fois que le diabète est diagnostiqué, à ce moment-là, Bintou Chersek, il va falloir vraiment observer ce qui se passe, obtenir des conseils sur le plan donc de l'alimentation, de la diététique.
Ça, c'est essentiel. Donc, une personne qui reçoit un diagnostic de diabète, la première chose à faire, hormis évidemment les prescriptions médicamenteuses, donc ça, c'est d'un côté, mais le plus important, c'est vraiment une prise en charge diététique, c'est-à-dire cette personne va savoir maintenant comment manger et ensuite comment bouger également. C'est une autre facette de la prise en charge du diabète, mais ce sont ces deux-là qui vont aider cette personne à gérer cette maladie et surtout à ne pas avoir de complications et à vivre avec 150 ans et mourir d'autre chose que le diabète.
Alors, alimentation, activité physique, ça fait donc partie intégrante de la prise en charge. Est-ce que ça veut dire que ça doit être obligatoirement inclus dans les consultations, que ce soit avec un généraliste ou avec un spécialiste, le diabétologue ?
Ça doit être automatique. Je pense que de toute façon, les médecins ne sont, à moins qu'ils soient des médecins nutritionnistes, les médecins ne sont pas formés pour prescrire une alimentation et prendre en charge une personne du point de vue alimentaire. Donc, un médecin ou diabétologue ou généraliste qui prend en charge un diabétique doit immédiatement, si c'est possible, référer à une diététicienne ou à un diététicien. C'est vraiment l'idéal. Si une diététicienne n'est pas disponible, ce qu'il faudrait, c'est que les médecins, les diabétologues surtout, les personnes qui prennent prennent en charge les diabétiques, eh bien, aillent se former en diététique, avoir un tant soit peu d'habileté à prescrire, à transmettre l'information aux diabétiques. Donc, soit on réfère, soit on va se former et on donne la bonne information aux diabétiques parce que c'est essentiel.
Aujourd'hui, on parle aussi de surpoids, d'obésité, Bintou Chersek. Là encore, le message pour mieux équilibrer l'alimentation, hein, pour éviter de cumuler en plus un diabète, parce qu'on observe eh bien, souvent la coexistence entre ces différentes maladies.
Bah oui, parce que le surpoids est un facteur de risque de diabète. C'est pour ça que le surpoids, l'obésité. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment éloigner l'excès de graisse ou réduire l'excès de graisse dans le corps. Et ensuite, comme je disais, une fois qu'on a un diabète et qu'on a un surpoids, on complique le diabète et on complique la prise en charge du diabète. Donc, c'est deux problèmes. Et d'ailleurs, je vois dans mon cabinet les personnes qui viennent me voir. La plupart des personnes qui viennent avec un diabète de type 2 ont aussi un surpoids. Vous voyez, donc, ce n'est pas du tout une coïncidence.
Et on va bien sûr parler d'ajustement, de rééquilibrage, d'éducation thérapeutique qui, en aucun cas, sanctionner, affamer, interdire.
Jamais. D'ailleurs, lorsqu'on s'affame, qu'on est diabétique, on s'affame, on ne mange pas suffisamment, on déséquilibre le diabète. C'est-à-dire que la glycémie ne se stabilise pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, quand on mange également de façon trop stricte, par exemple, vous aurez il y a des diabétiques qui décident d'éliminer complètement toutes les formes de sucre, y compris les féculents, donc le riz, les pommes de terre, les pâtes. Et en fait, ce sont les personnes qui ont un diabète très déséquilibré. Leur glycémie est très difficile à réguler dans ces conditions-là. Donc, non, il faut bien se nourrir suffisamment, manger à sa faim, c'est extrêmement important aussi. Un diabétique ne doit jamais se laisser avoir faim et manger avec plaisir, c'est très important ça.
Mais il y a un vrai défi, c'est continuer à manger comme cela en famille, parce qu'il n'est pas toujours prévu qu'au menu, il y ait des aliments particulièrement adaptés à une personne diabétique.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun aliment naturel qui est interdit à un diabétique. Sauf le miel, sauf les aliments qui sont naturellement, qui contiennent du beaucoup de fructose.
Je vous interromps juste, si on va vers un petit menu riz à loco, hein, banane, frites, plantain, et avec une petite viande, là on va être un petit peu mal parti.
Ah ben non, moi je dirais que c'est une question de proportion. Déjà, à votre menu, il manque juste des légumes.
Ah, il manque des légumes
si
quand
on,
même, oui.
Il manquait des légumes. Donc si on pouvait ajouter, je ne sais pas moi, une macédoine de légumes, du gombo, enfin, je dis n'importe quoi, ou une salade variée, eh bien là, toute la problématique serait juste par rapport à la répartition de ces différentes composantes dans l'assiette. Donc on a votre viande, on a, disons, la banane plantain. Bon, qu'elle ne soit pas frite, ce serait mieux. Mm-hmm. Donc disons, si elle était grillée ou bouillie, ce serait mieux.
Donc vous allez réinventer la recette de la loco. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Alors, écoutez, il y a des friteuses à air aujourd'hui qui permettent de frire.
Et ça marche très bien, c'est très bon. Où va le monde?
Donc ça, c'est pour dire que en fait, on adapte le menu familial. On ne change pas le menu familial. On l'adapte pour que la personne diabétique puisse manger quelque chose d'équilibré.
Nos premiers témoignages, c'est tout de suite. Et c'est le moment de notre palabre féminin enregistré cette semaine encore au sein de la maison apaisante Iggy Kali à Ivry-sur-Seine en région parisienne. L'association Icambéry accompagne des femmes en situation de précarité. Elles sont souvent concernées par des maladies chroniques hein, comme le diabète. Et elles sont quatre aujourd'hui avec Charlie Dupio, âgée de 60 à 66 ans. Il y a Mia, Pascaline, Ouria et Alice. Et c'est Alice qui entame la discussion.
Moi je suis diabétique depuis 2020. Moi, je suis du type 2 et j'étais vraiment dans une situation d'obésité parce que je pesais 115 kilos et avec le régime que je suis actuellement, je pèse 77 kilos. Parce qu'avant, je ne contrôlais pas mon alimentation. Je consommais beaucoup plus de féculents. Je négligeais vraiment, les légumes. Et je consommais beaucoup de gras, parce que quand je fais du riz, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'huile dans le riz. Et mon lait, c'était du lait entier. Et je mettais également beaucoup de sucre.
Dans le lait ?
Dans le lait, beaucoup de sucre. Et tout cela, ça a vraiment entraîné des dégâts, parce que puisque je prenais trop de gras, donc je n'arrivais pas à évacuer facilement, j'étais souvent constipée.
Moi aussi, je mangeais n'importe quoi. C'est-à-dire que je mangeais un paquet de gâteaux. Si je commençais un gâteau, je finissais le paquet. Et voilà. Il y a 6 mois, on m'a soupçonné un diabète chez moi. Donc c'est récent pour moi et c'est récent que je viens ici. Donc j'apprends à manger plus sainement.
Je suis diabétique, mais depuis 2018, je viens ici à Cambéry et puis je mange bien.
Qu'est-ce que vous mangez ici, par exemple, dans cette association ?
Les légumes, le poisson, le poulet et puis beaucoup de fruits et puis tout ça là. Et puis ça me fait du bien.
En fait, les sauces, on a l'habitude de les faire avec de l'huile et du vinaigre. Et ben là, on apprend à les faire autrement. Hein, mettons avec des pois chiches, sauce aux pois chiches, qui est très très bon. Ça nous change du quotidien. Donc j'ai appris à cuisiner sans huile, à me passer de l'huile pour faire revenir les oignons.
Tu peux mettre de l'eau pour cuisiner avec ça, c'est très bon aussi pour la diabétique.
Oui. Oui. De remplacer l'huile par l'eau ?
Par l'eau, c'est ce qu'on a appris, je ne savais pas. Ça aussi, je l'ai appris. Et j'apprends en même temps à mes petits-enfants comment cuisiner, à ma petite-fille qui copie sur moi. Et je pense que ce que j'apprends, ça sera un bien pour ma famille.
Il faut éviter surtout le sucre blanc.
Il y a quand même beaucoup d'aliments, de desserts qui sont avec du sucre blanc. À quoi, pour vous, c'est difficile de renoncer ?
Moi, c'est les gâteaux, hein. C'est très difficile. Okay. Tout ce qui sont chocolat, la noix de coco, tout, voilà. Ça, je mangeais beaucoup de yaourt parce que je pensais que les yaourts, ben, c'est sain, aux fruits. C'est mieux que de manger des gâteaux. Mais en fait, c'est autant sucré que n'importe quoi.
Des yaourts aux fruits.
Voilà. Donc maintenant, j'ai appris à manger des yaourts blancs, sans sucre. Ça, j'ai appris à manger. Et avant, je mettais 3 sucres dans mon café. Maintenant, je mets des sucrettes.
J'ai arrêté le sucre, je bois le café sans sucre. Et puis, je suis à l'aise. Si je bois le café avec le sucre, il y a ma tête qui tourne. J'ai tout laissé ça.
Nous, les diabétiques, devons consommer ce qu'on appelle le sucre complet.
Qu'est-ce que tu appelles le sucre complet ?
C'est pas du sucre rouge, c'est un sucre spécial.
Tu m'apprends quelque chose.
Moi, personnellement, ce que j'ai ressenti, mon alimentation a totalement changé.
Comment vous vous sentez maintenant dans votre corps ?
Par rapport à avant, je me sens très légère. Je peux m'habiller correctement. Parce que lorsqu'on est en surpoids, on a une certaine lourdeur. On ne peut pas faire assez de mouvements. Même pour se lever, pour marcher, on a vraiment des difficultés. Mais là, présentement, pour marcher, moi, je n'ai pas de soucis. Hein. Je me sens à l'aise vraiment dans ma peau.
Des conseils, des changements pour se sentir bien, on l'entend tout simplement, Bintou Chersek, et prendre conscience aussi qu'une partie de la solution, elle se trouve dans notre assiette.
Oui, et je trouve que cette expérience-là est vraiment très intéressante parce que finalement, c'est démontrer à des diabétiques qu'ils ou qu'elles peuvent mieux manger et de le faire dans la cuisine et leur montrer qu'elles peuvent trouver du plaisir dans ce qu'elles mangent tout en mangeant de façon beaucoup plus saine, avec beaucoup moins d'huile, beaucoup moins de sucre. Je trouve que c'est vraiment... Il n'y a rien de tel en fait que la démonstration quand on veut aider quelqu'un à changer ses habitudes, surtout les habitudes alimentaires.
Bintou Chersek, on va partir tout de suite, si vous le voulez bien, pour le Cameroun.
RFI à Douala, 97.8 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Annick. Annick, bonjour.
Bonjour.
Alors Annick, vous êtes âgée de 40 ans et vous nous appelez pour évoquer notamment votre poids. Vous en êtes où aujourd'hui, question poids ?
Bon, j'ai 40 ans, je suis à 78 kg.
Et pour quelle taille, s'il vous plaît ?
1m57.
1m57 pour 78 kg. Ce problème de surpoids, est-ce qu'il est là depuis toujours ou c'est quelque chose d'assez récent ?
Non, c'est tout récent. Cela fait 4 ans que j'ai commencé à prendre du poids constamment.
Vous dites, il y a 4 ans, il s'est passé quelque chose de particulier à ce moment-là ?
Oui, j'ai fait un accouchement par césarienne.
C'était, vous aviez eu d'autres enfants avant ?
Oui, j'ai fait 3 accouchements déjà avant.
Et avant, pour les autres enfants, il n'y avait pas eu de gain de poids qui était resté d'une grossesse à l'autre ?
Non.
Alors, donc, c'est assez récent. Et au niveau de l'alimentation, comment est-ce que vous mangez ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là ?
Bon, déjà, je ne mange pas beaucoup. Je peux manger vers 11 heures et passer la journée sans manger. Mmh. Et je souhaite prendre une tasse de thé ou un fruit
Ce que vous nous dites, en fait, Annick, si je comprends bien, c'est que vous avez peu de repas au cours de la journée. On va dire peut-être un repas assez important et une autre collation, c'est ça?
Oui, le soir.
Ça veut dire que vous sautez des repas?
Oui.
Lesquels?
Bon, j'ai le repas de midi, parce que j'étais mangé vers 10 à 11h, je ne mange plus jusqu'au soir.
Vous avez faim entre les deux?
Non.
Et quand vous dites « je mange vers 11h midi », vous mangez quoi? À quoi ressemble votre assiette, votre portion?
Je mange normalement un bon plat de repas, mais j'évite la farine.
Vous dites un bon plat, ça veut dire quoi? Il y a des légumes dedans ou il n'y a que des féculents?
Des féculents, des légumes, ça peut être du couscous, ça veut dire des légumes, ça peut être du plantain, du macabo.
Plantain frit ou plantain plutôt bouilli?
Non, bouilli.
Bouilli. Est-ce que vous avez parlé de cette question du poids qui vous tracasse à un médecin?
Non, pas encore.
Alors, Annick, vous allez poser toutes vos questions à Bintou Chersek, notre invitée nutritionniste diététicienne qui est à votre écoute. Allez-y.
J'aimerais savoir déjà comment on calcule les calories pendant le repas. J'aimerais aussi me mettre au sport, mais il se dit que quand on fait du sport, on perd du poids et quand on relâche le sport, on reprend le même poids et parfois un peu plus. Et troisième question, j'aimerais savoir si le fait de jeûner est dangereux pour la santé.
Vous considérez que vous sautez des repas volontairement ou est-ce que finalement c'est un rythme qui vous correspond, qui vous va bien?
Non, je me force de ne pas manger, même si j'ai faim.
Vous vous forcez, oui. Donc vous vous privez, on a bien compris. Bintou Chersek, des questions très importantes que pose Annick. Elle s'interroge notamment sur ses privations, un repas et une collation par jour. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bonjour Annick. En fait, le principe est simple. Il faut suivre les indications du corps, il faut écouter son corps. L'organisme qui nous dit « j'ai faim », c'est le seul moyen qu'il a de nous indiquer qu'il a besoin d'énergie, qu'il a besoin de nutriments. Et quand on ne répond pas à ce besoin en mangeant, ce qu'il fait lui, c'est qu'il ralentit, c'est-à-dire qu'il réduit ses dépenses. Il se met en mode plutôt de stockage, au lieu d'être en mode de dépense. Et c'est ce qu'on veut. On veut que notre organisme soit une machine dépensière de calories. Mais Annick, quand vous sautez des repas, ce que vous faites, c'est que vous ralentissez le corps et vous lui permettez au repas suivant de stocker beaucoup de ce que vous mangez. Et ce qui fait au final, quand on saute des repas, quand on ne répond pas à l'appel de la faim, eh bien soit on ne mincit pas, soit carrément on grossit. Et le plus souvent d'ailleurs on grossit. Donc le premier conseil que je vais donner, c'est qu'il ne faut plus faire de la restriction cognitive, c'est-à-dire vous décidez de ne pas manger. Il faut plutôt écouter le corps, manger quand il le demande. Maintenant la question c'est quoi manger? Alors, ensuite, il y avait la question des calories.
Ça, c'est important, les calories, oui. Parce qu'on voit même dans des troubles du comportement alimentaire, les personnes qui se mettent à compter les calories de façon frénétique, ce qui peut être vraiment, même carrément dangereux.
Et voilà, Caroline. Donc, j'allais dire à Annick, lui conseiller, surtout de ne pas rentrer dans ces sortes d'engrenages, de compter les calories. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait comment composer nos repas, et qu'on sait écouter son corps donc pour ne pas manger au-delà du rassasiement, en fait, on finit par manger exactement ce dont le corps a besoin. Autant de calories qui correspondent aux besoins du corps. On n'a pas besoin de calculer des calories. C'est absolument obsédant et ce n'est pas naturel de compter ses calories. Voilà.
Annick a posé une question aussi, et je voudrais m'adresser à elle à nouveau, au sujet de l'activité sportive. Annick, vous aimez faire quoi pour bouger, pour justement ne pas rester dans la sédentarité? Qu'est-ce qui vous attire comme pratique?
Bon, j'aime la marche et la danse.
Vous en faites aujourd'hui ou pas du tout?
Bon, j'ai dansé avant, mais depuis mon accouchement, je n'ai plus dansé. Mais la marche, je marche quand l'occasion se présente.
Quand l'occasion se présente ou régulièrement?
Bon, je ne vais pas régulièrement parce que je vais au boulot en moto, je rentre en moto. Donc, je marche presque pas en semaine.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Annick Bintou Chersek sur ce point justement de l'activité physique? On lui a dit, c'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure, quand on s'arrête, on regrossit. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce n'est pas une raison. Alors, on regrossit parce que probablement on ne mangeait peut-être pas de façon tout à fait équilibrée, ou on regrossit parce que si, on dépense moins d'énergie. Et donc, ce qu'on mange, on en stocke pas mal. Et en plus, il y a le fait que d'avoir 40 ans, Annick, qui fait que notre corps ralentit naturellement. Ça, il se dépense moins naturellement. Et donc, c'est difficile de maintenir une corpulence normale ou de ne pas avoir un surpoids à cet âge-là sans faire du sport, sans bouger. Moi, ce que je conseillerais, c'est, au lieu de faire du sport, c'est d'augmenter son activité physique, c'est-à-dire tous les mouvements du quotidien. Et aujourd'hui, on a des applications sur les téléphones portables qui permettent de décompter le nombre de pas qu'on fait. Et Annick, moi, je vais vous donner un objectif très simple. Chaque jour, vous allez essayer de faire 5000 pas dans la journée pour aller au travail, pour faire votre toilette, pour faire la cuisine, pour aller chercher votre fils, etc. Et on commence par ça. Et vous verrez déjà qu'il y aura beaucoup d'améliorations par rapport à tout, le niveau d'énergie, ainsi de suite. Et après, on verra pour maintenant reprendre la danse, par exemple.
Annick, arrêtez un petit temps les privations et donnez-nous des nouvelles pour savoir si ça va mieux, si vous vous sentez mieux à la fois dans votre corps et dans votre tête. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ok, je ferai des efforts dans ce sens.
Des efforts ? C'est pas des efforts d'arrêter les privations. C'est de mieux manger et de marcher un petit peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ok, j'ai compris, je ferai cela.
Voilà pour ces conseils, Annick. Un grand merci à vous. Et c'est une chanson de votre choix qu'on va maintenant partager tout de suite avec les auditrices, les auditeurs de RFI. Ça s'appelle « Maladie d'amour ». Bonne maladie quand elle est bien gérée. Sandrinos Raphaël sur RFI. On se retrouve juste après avec d'autres questions, Bintou Chersek.
Quand ça nous pique, quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, la dilaï. On a la joie de vivre, on a la joie de vivre. On sait s'emporter par le vent, on ne voit pas passer le temps. La maladie, la dilaï. Hey, ingalele, ah, hey, ingalele. Dignes les gays, gengé la domé, ouais. Dignes les gays, gengé la domé, ouais. Content et tu souris, c'est la vie. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Ah, 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 ah. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir. Oh, mon bébé, viens me voir. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas.
Question de femmes dans Priorité Santé, on parle alimentation en cas de surpoids pour prévenir ou équilibrer un diabète. À l'écoute des auditrices, on retrouve à Dakar dans les studios RFI en full des mandacans, Bintou Chersek, diététicienne nutritionniste. Et on prend maintenant une autre auditrice en ligne, aussi à Dakar. On retrouve Cassandra. Cassandra, bonjour.
Oui, bonjour.
Cassandra, vous avez 42 ans et on vous a diagnostiqué un diabète de type 2. Ça remonte à quand et sur la base de quels symptômes, s'il vous plaît ?
Ça remonte à 2006-2007.
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
À ce moment-là, j'avais, calcul mental, zéro.
Vers 25 ans, c'est ça ?
Ouais.
Environ 25 ans. Les médecins, ils vous ont diagnostiqué un diabète de type 2 ou un diabète de type 1 ?
Un diabète de type 2.
Et à ce moment-là, est-ce que vous avez eu un traitement de la part des médecins ?
Oui, on m'avait mis sous insuline.
Oui.
Je prenais du nouveau mix et du nouveau rapide.
Vous dites, on m'avait mis pourquoi ? C'est fini l'insuline ?
Non, c'est pas fini, c'est moi qui l'ai arrêté sans avis médical parce que ça me faisait gonfler, ça me faisait prendre énormément de poids.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment où on vous parle, vous avez une ordonnance d'insuline et vous l'avez arrêtée de vous-même.
Je l'ai arrêté de moi-même parce que je pense faire de la résistance à l'insuline.
Oui, mais c'est un médecin de vous le dire, excusez-moi, Cassandra. Vous savez que c'est très dangereux d'arrêter sans avis médical.
J'ai été hospitalisée pendant une semaine et j'étais sous pouce d'insuline. Mais pendant toute cette période, ils n'ont pas réussi à baisser mon taux d'insuline. Et au final, c'est moi-même qui ai demandé au médecin de me relâcher puisqu'il n'arrivait pas à baisser mon insuline. Donc,
Aujourd'hui, vous en êtes où exactement?
Je prends à jeun, je suis dans les 3-4 des fois et pourtant c'est comme ça que je fonctionne.
Vous fonctionnez. Un diabète complètement déséquilibré, ça veut dire?
Complètement déséquilibré. Finalement, je pense que c'est plutôt un découragement ou bien j'ai baissé les bras ou bien je dis je vais y aller comme ça, voilà.
Cassandra, moi il y a quelque chose qui me frappe. Vous avez arrêté l'insuline parce que votre diabète n'était pas équilibré ou parce que vous aviez un problème de poids?
Ça me faisait prendre du poids et aussi, ça n'était jamais équilibré.
Ça veut dire que vous contrôliez sous insuline et vous ne réagissiez pas à la prise d'insuline?
On m'avait donné un schéma à suivre pour à chaque fois augmenter ou diminuer la dose. Mais à chaque fois, j'étais obligée d'augmenter d'une unité, deux unités, chaque jour. Parce que quand je prenais l'insuline, ça augmentait, ça ne baissait jamais.
Ça ne baissait jamais. Vous aviez un régime alimentaire spécifique associé?
Non, c'est ça mon problème. Parce que ici, pour suivre le régime, je pense qu'ici en Afrique, on a un énorme problème parce qu'on n'a pas trop de choix d'aliments qui vous donnent envie de manger ou bien qui vous donnent envie de suivre le régime, à mon avis.
C'est votre avis? Parce que depuis tout à l'heure, Bintou Chersek nous a expliqué le contraire. Moi, ça m'inquiète en fait, pour tout vous dire, quand je vous entends parler, Cassandra. Vous me dites, j'arrête l'insuline parce que je prends du poids. Je ne vérifie pas ce que je mange parce que finalement, c'est difficile de manger des choses qui me font plaisir. En fait, vous agissez comme si vous n'aviez pas de diabète.
Exactement.
Et vous trouvez ça normal?
C'est pas normal, mais...
Quand je vous dis ça, je ne vous juge pas, ce n'est pas la question. C'est parce que c'est inquiétant pour votre santé que je vous pose la question. C'est parce que là, peut-être qu'aujourd'hui, ce que vous faites, c'est vraiment mauvais pour vous.
Je sais que c'est, je dirais même quasiment suicidaire pour moi, mais après maintes années, je n'ai vu aucun changement, si ce n'est des années de privation. Et puis, à un certain moment donné, avec d'autres problèmes de santé, il faut reconnaître que j'avais développé une phobie des hôpitaux, une phobie de tout ce qui était...
Est-ce que vous pensez que vous pourriez parler de tout ça à un médecin qui ne traite pas votre diabète, mais à un médecin, un psychologue?
Oui, je pourrais, parce que des fois, ce qui m'empêche d'aller à l'hôpital, des fois j'ai mal, j'ai d'autres douleurs, j'ai d'autres maux, mais dès que j'arrive à l'hôpital, on prend mon taux de sucre, hop, ils oublient ce qui m'a amené à l'hôpital. D'accord. Pour se concentrer sur le diabète. Donc voilà, j'en veux un peu au diabète.
Vous en voulez au diabète parce que vous êtes Cassandra, vous n'êtes pas qu'une femme diabétique, c'est ça?
Une diabétique et qui peut avoir d'autres maladies, qui peut avoir d'autres maux. Donc, si je vais à l'hôpital, bien que mon taux de sucre soit élevé, mais qu'il traite aussi ce qui m'a amené à l'hôpital, mais pas tout simplement se concentrer sur le diabète.
Bintou Chersek, on entend ce que vient de nous dire Cassandra. Son histoire, elle est compliquée, elle est intéressante et elle pose vraiment beaucoup de problèmes. Accepter sa maladie, accepter toute l'hygiène de vie qui va avec, accepter le traitement... Apparemment, il n'y a pas eu une bonne communication avec les médecins.
Et voilà, je pense que ce qui s'est passé avec Cassandra, et c'est bien dommage, parce que c'est quelque chose que je vois relativement souvent, c'est qu'elle a été découragée par des conseils peut-être un petit peu trop draconiens, un peu trop stricts. Parce que quand je l'entends dire qu'elle ne trouvait plus le plaisir de manger, ce qu'on lui proposait comme régime était beaucoup trop strict, je me demande quel genre de conseils on a pu lui donner. Parce que, comme j'ai dit, un diabétique peut manger comme tout le monde à la maison, avec des petites spécificités. Et donc, elle n'aurait pas dû ressentir ça. Je pense qu'elle est tombée, il y a eu peut-être une rupture dans la communication, elle est tombée sur des professionnels de santé qui n'étaient pas tout à fait à l'écoute. En tout cas, Cassandra, moi, ce que je vous conseille, c'est de reprendre à zéro. Il ne faut pas perdre espoir. Il faut absolument reconnecter avec le monde de la médecine. Parce que, vous savez, le diabète, les complications du diabète, c'est vraiment douloureux. Ce n'est pas une maladie qui tue rapidement, etc. C'est des complications très longues, très difficiles, très ardues à traiter. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Il faut reprendre contact avec ce monde-là. Je vous garantis que vous trouverez un médecin, une équipe, finalement. Parce que prendre en charge le diabète, c'est pas seulement le médecin et le diabétologue, mais c'est aussi les nutritionnistes, les psychologues, comme Caroline l'a dit, et d'autres professionnels de santé qui vont vraiment vous aider à reprendre le dessus.
Et un conseil, Cassandra, quand vous en avez marre justement que les médecins ne vous parlent que de votre diabète, dites-leur. Dites-leur, moi je suis une femme, j'ai d'autres problèmes, j'ai un diabète, mais je suis aussi une personne. Ça aussi, il faut qu'ils puissent l'entendre.
Je ne me prive pas de leur dire, je leur dis, c'est pas le diabète qui m'a amené ici, c'est ça qui m'a amené ici. Mais n'empêche, ils sont tout le temps focalisés sur ton taux de sucre est trop élevé et ils oublient tout le reste.
En même temps, Cassandra, c'est normal qu'ils le fassent parce que c'est leur devoir de médecin. Et si votre diabète n'est pas contrôlé, ça met votre vie en danger. Donc là, c'est le devoir le plus essentiel du médecin de dire « Attention madame, on va pouvoir s'occuper de vos autres problèmes, mais la base, c'est que là, vous êtes en train, à petit feu, de vous mettre en danger. » Vous comprenez ça ?
J'en ai conscience, oui, j'en ai conscience. C'est ça qui est dommage en fait.
Bintou, vous aviez quelque chose à ajouter, je vous en prie.
Oui, il est tout à fait possible aussi que les autres problèmes de santé que vous avez, Cassandra, soient liés à ce taux de sucre très élevé. Et que donc les médecins reconnaissent que ce dont vous vous plaignez par ailleurs soit lié quand même à un taux de sucre qui est à 3 à 4 grammes par litre de sang, c'est énorme.
C'est énorme.
Et ça, rien que ça peut provoquer d'autres dysfonctionnements. Et vous pouvez ne pas vous rendre compte de cette connexion-là, de ce lien-là.
Sans bien sûr aller contre le secret médical, c'est quoi ces autres problèmes de santé dont vous souhaitez leur parler aux médecins ?
Des fois, j'ai fait quelques petites crises d'AVC. Ça m'arrive de temps en temps, une perte complète du côté droit de mon corps. Mmh. Plusieurs fois, j'ai perdu aussi l'utilisation de ma langue.
Mmh. Est-ce que vous avez eu des connaissances, par exemple, sur le fait qu'il y ait un certain nombre d'AVC qui soient directement en lien avec le diabète, voire une complication du diabète ?
Non.
Vous ne savez pas, ça ?
Non.
Non, vous ne le savez pas. Bintou Chersek ?
C'est directement lié. Quand vous avez un taux de sucre qui est à 3 ou 4 grammes, ce qui se passe, c'est que le sucre est constamment élevé dans le sang et endommage les artères et les nerfs aussi. Et la complication la plus fréquente chez les diabétiques, c'est quand même les maladies cardiovasculaires, les AVC, les crises cardiaques, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que les médecins vous parlent de votre taux de sucre, quand ils voient que vous avez des complications, en fait, du diabète.
Et ce sont des complications très graves, hein.
Absolument.
Cassandra, donc on a bien compris. Vous vous sentez prête maintenant à aller revoir une équipe médicale ?
Oui, je pense qu'il va falloir que je le fasse.
En tout cas, les encouragements de toute l'équipe pour la suite de votre parcours de soins. On part tout de suite pour Cotonou, pour le Bénin, retrouver Ariel en ligne. Bonjour Ariel.
Bonjour.
Alors, vous avez 30 ans, Ariel. Vous êtes passée par un certain nombre de régimes à cause d'un surpoids. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. L'effet yo-yo, vous en êtes où aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je reprends, mais je ne passe pas pour des régimes, mais pour de bonnes habitudes.
Parce qu'avant, vous avez fait plusieurs régimes ?
Oui, effectivement. Je limitais tout ce que je mangeais et c'était très strict. Il y avait beaucoup d'aliments que je ne prenais plus et je mangeais une seule fois par jour avec beaucoup d'activités physiques et tout. Et au fin, j'ai eu le résultat, mais après, je n'ai pas su garder cette habitude-là. Du coup, les kilos perdus sont revenus.
Alors, vous nous disiez des privations, ça veut dire que des fois, est-ce que, par exemple, vous aviez des fringales, des moments où vous aviez très très faim ?
Non, j'ai arrêté avec tout ça et quand j'avais faim, je devais gérer avec de l'eau ou juste un fruit.
Aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes fixé un objectif en matière de poids ?
Actuellement, je voudrais bien revenir à 65 kilos et garder les bonnes habitudes pour rester là.
Aujourd'hui, vous pesez combien, si ce n'est pas trop indiscret ?
82 kilos.
82 kilos. Et vous êtes prête à faire quoi, en fait, pour baisser d'autant de poids, presque 20 kilos ?
Là, j'ai repris avec une activité physique régulière. Je vais tout doucement, je pratique plus de marche et de la corde à sauter aussi, 3-4 fois par semaine. Et aussi, au niveau de l'alimentation, j'essaie de manger bien équilibré. Je respecte les 3 repas par jour.
Est-ce que vous avez observé une baisse de poids régulière ou ça ne marche pas tout de suite ?
Non, ça ne marche pas tout de suite, ça prend du temps.
Vous avez commencé quand cette nouvelle, on va dire, discipline ?
J'ai commencé le mois dernier, début février.
Début février, donc vous n'avez pas encore beaucoup de recul. Vous n'avez rien perdu du tout par rapport à cette activité physique et à ces repas fractionnés, non ? Rien ?
Pas de belle chute de poids, mais je me sens mieux dans mon corps.
Est-ce que ce n'est pas ça le plus important, de vous sentir mieux, Ariel ?
c'est bien de se sentir dans sa peau, mais je trouve que quand les kilos sont en trop, il faut que ça baisse un peu.
Bintou Chersek, objectif 65 kilos pour Ariel. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça de s'arrêter sur un poids bien précis à atteindre?
Alors, d'abord, je voudrais commencer par féliciter Ariel d'avoir abandonné les régimes draconiens. Ça, c'est une très, très bonne chose. Ensuite, il ne faut jamais se fixer un objectif poids parce que le poids ne reflète pas forcément la corpulence. La balance n'enregistre pas forcément la perte de graisse. Donc, c'est deux choses différentes. Perdre du poids, perdre de la graisse. Et l'objectif d'Ariel, c'est de mincir, de perdre de la graisse. Alors, pourquoi se fixer un objectif taille de vêtements? C'est que, quel que soit ce que dit la balance, quand on va d'une taille de vêtements, par exemple une taille 42 à une taille 40, eh bien on a perdu 5 kilos de graisse. Donc là, si Ariel voulait vraiment passer de 82 kilos à 65, elle se propose à perdre plus de 3 tailles de vêtements. Donc déjà, il faut se poser la question, Ariel, est-ce que ça c'est raisonnable? Est-ce que c'est cette taille-là que vous aviez quand vous pesiez 65 kilos? Enfin, il y a toutes ces questions-là auxquelles il faut répondre. Donc, objectif taille de vêtements, et on ne se résume pas à un poids. Il faut juste oublier et ne même jamais se peser. À la limite, plutôt se mesurer, prendre ses mensurations, le tour de taille, le tour de hanche. Et au fur et à mesure, vous verrez que les centimètres diminuent. Et chaque centimètre qu'on perd en tour de taille, c'est un kilo de moins, un kilo de graisse de moins.
Ariel, j'ai une question. Pourquoi 65 kilos? Qui pèse ou pesait 65 kilos?
C'était moi.
Quand? À quel âge?
En 2014, je crois, je devais avoir 25, 26 ans.
Donc en fait, vous voulez retourner au poids de vos 20 ans, c'est ça?
Oui, 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 c'est bien ça.
C'est bien ça, d'accord, ok. Ben écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire là par rapport à ça. Bintou Chersek, on vous écoute.
Oui, je répète ce que j'ai dit. Ariel, je vous conseille vraiment d'oublier votre balance ou la ranger quelque part. Et voyez quelle taille de vêtements vous faisiez quand vous aviez 25 ans. Parce qu'entre 25 ans et 30 ans, il n'y a quand même pas une grande différence. Donc, cette taille de vêtements-là devrait être votre objectif. Donc, si vous avez gardé des vêtements de cette époque, dès que vous pourrez rentrer dans ces vêtements-là, vous aurez atteint votre objectif. Il faut vraiment oublier ces 65 kilos. Entre-temps, la composition de votre corps a changé. Vous avez pu avoir développer des muscles là où vous n'en aviez pas à l'âge de 25 ans. En tout cas, ce poids, il ne faut pas qu'il régisse votre vie.
Voilà, merci beaucoup Ariel pour ces questions et votre témoignage. À présent, on part pour la Côte d'Ivoire, Abidjan, avec Anissa en ligne. On l'écoute.
Bonjour, je me nomme Anissa, j'ai 41 ans. Je vis en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Pour ma part, j'ai pris du poids. J'ai pris près de 25 kilos. Lors de ma grossesse il y a 11 ans, après l'accouchement, j'ai perdu 5 à 6 kilos. Et depuis lors, je n'ai plus réussi vraiment à perdre les 20 kilos que je traîne depuis toutes ces années. Et après mon mariage en 2018, à aujourd'hui, j'ai pris encore du poids. Donc au départ, je faisais 50 kilos et je suis arrivée à 70 kilos. Et maintenant, je fais 85 kilos. Je mesure 1,65 m. Donc, je me suis inscrite sur plusieurs applications pour faire de l'alimentation équilibrée, pour savoir manger, des trucs comme ça. Mais je pense que j'ai un vice, peut-être que j'aime manger et je n'arrive pas à me plier au régime. Du moment où c'est un régime, parfois j'arrive à perdre du poids, hein. J'arrive à perdre 5 kilos et aussitôt je les reprends. Donc, du moment où c'est moi-même qui décide de perdre ce poids, ça se passe bien. Mais dès qu'on me met la pression, comme l'intervention de mon mari qui me dit que la grossesse ne me réussit pas et qui prend des exemples des femmes qui accouchent et qui perdent aussitôt le poids, et voilà. Donc, j'arrive pas. Aujourd'hui, mon poids est devenu un problème au sein de mon couple. C'est parfois difficile pour moi de comprendre. Et je me dis que je n'ai pas à perdre du poids pour faire plaisir. Mais en même temps, voilà, je sais que c'est un problème qu'il faut que je résolve. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Merci en tout cas.
Anissa qui a besoin de conseils, hein, Bintou Chersek. Alors, elle n'a pas perdu les kilos de sa dernière grossesse. Elle consulte des applications. Elle aussi, elle est victime de l'effet yo-yo des régimes. Ce surpoids, eh bien, il va jusqu'à empoisonner sa vie de couple, puisque son mari lui met la pression. Beaucoup de choses dans ce témoignage. On entend en tout cas vraiment qu'Anissa a besoin de conseils.
Oui, je pense que il y a, dans ce qu'elle a dit par rapport au menu, ou en tout cas les régimes qu'elle suivait, j'avais l'impression que c'était des régimes où on imposait un menu. Et dans ces cas-là, c'est très difficile de rester sur ces menus parce que on mange finalement de façon, enfin, dans la contrainte et pas forcément selon sa culture culinaire. Ça, c'est une erreur très courante que les personnes font, qui ont besoin de perdre du poids. Et du coup, elles ne peuvent pas rester sur les régimes ou sur ces menus particuliers. Donc, ce qu'il faut plutôt faire, c'est restructurer les repas, les assiettes, autour de la cuisine familiale ou autour de la culture culinaire. Autre chose que j'ai envie de dire à Anissa, c'est que je suis sûre qu'à Abidjan, il y a des diététiciens, et des vrais. Et que ça lui ferait un grand bien, après tout ça, tout ce qui se passe, d'aller consulter une diététicienne ou un diététicien pour une prise en charge. Parce que je pense que là, on entend un peu de découragement, de découragement.
Et c'est vrai que c'est important que ce soit à Abidjan, parce qu'il faut qu'il y ait les aliments de la place, la culture culinaire de la place, et pas quelque chose importé, une recette scandinave ou parisienne qui n'aura rien à voir avec sa réalité.
Exactement. Et en attendant, peut-être quelques conseils, il faudrait juste revoir la taille des assiettes. Une assiette de taille standard, c'est une assiette qui fait à peu près 28 cm de diamètre. Et ne vous resservez pas, vous servez une fois. Et surtout, éliminez, si vous en mangez, le sucre ajouté et les aliments qui contiennent du sucre. Ça, c'est vraiment des conseils de base pour commencer déjà à mincir. Et dernier conseil, ce serait de bouger, encore une fois, pas seulement de faire du sport, c'est bien, 3 fois, 4 fois par semaine, 30 à 45 minutes de faire du sport, mais surtout tout au long de la journée, toutes les heures, on doit se lever et faire des pas. Et rien qu'avec ça, on commence à se sentir mieux, on commence à s'alléger.
On se bouge tout simplement. En tout cas, on remercie beaucoup Anissa pour son appel et son témoignage. On a Adama à Dakar qui explique qu'elle est diabétique de type 2. Elle consomme beaucoup de lait en poudre et du lait de vache et elle demande si c'est mauvais pour son diabète. Est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Ah oui, absolument. Alors, le lait en poudre et le lait entier sont très riches en matières grasses. On sait que les produits laitiers sont très bénéfiques, mais quand on les consomme régulièrement, on doit les consommer en version allégée en matière grasse, donc du lait plutôt demi-écrémé. Pourquoi ? Parce que si on consomme régulièrement des produits laitiers entiers, on risque d'avoir une hausse du taux de mauvais cholestérol dans le sang, ce qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Et puisque une des complications majeures du diabète, c'est les maladies cardiovasculaires, on veut éloigner totalement ce risque-là. Donc ce que je conseille à Adama, c'est de adopter des produits laitiers allégés en matière grasse.
Autre question cette fois qui pose la problématique de la perte de poids localisée, on va dire. C'est Salimatou à Conakry en Guinée qui explique qu'elle a 36 ans, elle est en surpoids, 96 kilos pour 1m65 et elle a pris beaucoup de ventre, explique-t-elle, suite à un accouchement par césarienne et elle demande qu'est-ce qu'elle pourrait manger pour perdre du ventre.
Alors, c'est une alimentation équilibrée, Caroline, et on ne peut pas commander, on ne peut pas définir, prédéfinir là où le corps va aller puiser de la graisse quand on mincit. Par contre, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en général, premier endroit où l'organisme a mobilisé de la graisse quand on réduit, enfin quand on mange moins riche, on mange plus sainement, c'est le ventre. Mais il arrive un moment où il faut vraiment de l'exercice physique localisé, c'est-à-dire des exercices pour non seulement continuer à perdre de la graisse, mais aussi fortifier les muscles des abdominaux pour que le ventre s'aplatisse.
Voilà pour cette réponse. Et on a une dernière question de Myriam à Nouakchott en Mauritanie. Elle est âgée de 34 ans, Myriam, et au cours de sa troisième grossesse qui n'est pas allée jusqu'à son terme, eh bien on lui a diagnostiqué un diabète gestationnel. Maintenant, cette auditrice de Mauritanie souhaiterait peut-être envisager de mettre en route, comme on dit, un autre bébé. Et elle se demande, est-ce qu'il y a des choses à faire aujourd'hui au niveau de l'alimentation pour éviter une récidive de ce diabète gestationnel ?
Oui, non seulement il y a le risque de récidive du diabète gestationnel, mais une femme qui a développé un diabète gestationnel, eh bien, un risque accru de développer un diabète de type 2 plus tard dans la vie. Donc, il y a des choses à faire. Je vais dire à cette auditrice, Myriam, d'éliminer le sucre ajouté complètement. Non seulement le sucre ajouté, mais le sucre ajouté dans les aliments. Parce que parfois, on élimine le sucre ajouté mais dans les cafés, les yaourts, etc. Mais on oublie que les biscuits qu'on mange, les gâteaux, les glaces, les jus de fruits contiennent du sucre ajouté. Et ensuite, il faudra qu'elle enrichisse son alimentation de légumes et de fruits. Alors concrètement, ça veut dire que dans une assiette, en mangeant, quel que soit le menu, il faudra qu'au moins le tiers de la portion de ce qui est dans l'assiette soit composé de légumes. La moitié, c'est mieux, mais le tiers, c'est déjà pas mal. Et puis aussi, manger des fruits. Et ça fait que l'alimentation est riche en fibres, ce qui aide à réguler la glycémie dans le présent et puis dans le futur également. Alors s'il y a un surpoids, il faut absolument mincir. Et il faut, encore une fois, faire du sport, éviter d'être sédentaire.
Et s'il y a une prochaine grossesse, bien indiquer qu'il y a cet antécédent de diabète gestationnel lors de la précédente grossesse.
Tout à fait, c'est une grossesse à surveiller.
On va vous remercier beaucoup, hein, Bintou Chersek, pour tous ces conseils, toutes ces explications. Un grand merci pour ces réponses à nos auditrices. C'est en compagnie de Anna Tijoux qu'on se laisse avec ce titre « Milonaria ».
Tenemos palacio, ni tenemos tanto, tenemos cariño. De tanto abrazo nos faltan los brazos, sobra la ternura. Tenemos lingote y amor de fortuna, billete de besos. Cariño impreso, mimo y afecto. ¿Qué más queremos? No hay más nada. Tenemos este amor que todo calma. Tenemos los panas que están de verdad. Afortunada, estoy tapizada. Una familia que siempre me abraza. Soy millonaria. Tengo mi piño, mi casa, mi gata. Estoy tapizada.
Una familia que siempre me abraza.
Millonaria. 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 No tenemos Gucci, tampoco Versace. Ni Prada, ni Armani, no money, no party. Tenemos la familia y sin uno, pero brilla. Sencilla esta pandilla. Y aunque nadie nos pesca, no nos importa nada, nada. Tenemos divisa y visa, de miles de risa, risa. Amistades infinitas. Y aunque no tengamos guita, tremenda conversa. Siento que todo renueva. Pura simpleza, riqueza en la mesa. Gente modesta te cuida cuando te tropieces. Gente leal, gente real. Qué más legal, qué gente normal. Qué más bacán, especial. Tu gente te ama si todo va mal. Yo, yo.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Louise Kaledek, Talim Pou, Damien Roucou. Aujourd'hui, Pauline Berthélémy et Arthur Bon à la réalisation dans les studios de RFI. Et à Dakar, c'était Alassane Bireba aux manettes. Lundi, on va parler des phobies, ces peurs, ces angoisses irrationnelles qui peuvent avoir un très lourd retentissement sur la vie quotidienne. Que faire en cas de crise de panique? D'où viennent ces phobies et comment les prendre en charge? On en parlera lundi dès 9h10, temps universel.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.